et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission interactive. Ce soir, nous parlerons ensemble de la place de la femme dans l'islam. Dans une interview donnée au quotidien français La Croix, l'historienne Margot Badran disait que l'islam est la seule des trois religions du livre à avoir introduit dans ses textes l'idée d'une égalité fondamentale de la femme et de l'homme et aussi à avoir introduit la question des droits des femmes et de la justice sociale. Mais ce message, dit l'historienne, a été pervertie au nom de l'islam lui-même. Et elle souligne aussi, un peu plus loin dans l'interview, le paradoxe qui veut que la seule religion qui a inscrit l'égalité des sexes dans ses textes se retrouve aujourd'hui considérée comme la plus machiste de tous, de toutes les religions du livre. Alors cette interview de Margot Badran date de 2013. Comment en sommes-nous arrivés à cette image machiste de l'islam? Quelle est la place réelle des femmes dans cette religion dont tout le monde parle sans nécessairement connaître le texte. Et d'ailleurs, que dit le Coran? Les interprétations sont-elles les mêmes partout dans la Oumma, dans la communauté des musulmans? Ces questions, augmentées des vôtres, je les poserai à nos invités. Adakar Fatousso, sociologue, chercheuse, spécialiste du genre, et aussi musulmane, et aussi féministe, et aussi ardente défendresse de la laïcité. Bonsoir Fatso.
Bonsoir.
À Dakar également, un homme de foi, l'imam Ismaël Ndiaye. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à Gao, au Mali, Fatoumata Aliou Touré, présidente d'une ONG de lutte pour les droits de la femme, le GREFA. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant que nous commencions, que je vous pose mes questions, quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, laissée par nos auditeurs. Jamel Viam nous dit, en réaction à cette question que nous avons laissée sur la page Facebook, « Cette histoire est très visible. On vous dira de lire le Coran, mais la réalité est autre, sous domination de l'époux. Et le voile, ça ne va pas. » Un autre auditeur, Félix Jacques Kouété, nous dit « La femme musulmane n'aura jamais la parité. L'islam définit la femme comme étant un sexe inférieur. La religion est l'opium du peuple. » On ne peut pas dire que ce soit très positif. Alors Rukia Dor, à Washington DC, qui est une auditrice, nous dit « Les femmes musulmanes sont traitées comme des princesses. Elles vivent dans la paix et la tranquillité. Leur obéissance envers leur mari les différencie des autres femmes. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, allez, un petit dernier pour la route. Salissou Bio Ambarka nous dit « Elles vivent en paix. D'ailleurs, l'islam réserve une grande place dans la société musulmane et au respect pour la femme, dans la société musulmane et au respect de la femme dans son droit. Elle est dans son droit, dans le foyer et partout où elle se trouve. » Non, alors il en reste quand même un dernier qui est très intéressant, celui de Djenebou Mariko qui nous dit « La place de la femme en islam dépend des pays. Cependant, le Coran n'a jamais dit de maltraiter les femmes. Mais la femme doit s'habiller décemment et non être nue. La femme doit travailler avec la permission de son mari. En Afrique, les femmes musulmanes étudient et travaillent ou font du commerce pour aider leur famille. Dans les pays arabes, les hommes en général sont riches, donc ils préfèrent que leurs épouses restent à la maison. » Ma première question est pour vous, Imam Ndiaye. Que dit le Coran sur la place de la femme dans la société, finalement? Qu'est-ce qu'il dit exactement? La place de la femme dans sa société, dans son foyer, dans sa famille?
Voilà. Donc, avant de répondre à votre question, oui, permettez-moi de revenir un peu sur les commentaires. Je pense que la question a été posée comme voulant l'avis de l'islam sur la question de la femme, ou même commençant par les accusations que certains font à l'encontre de l'islam sur la femme. Je vais juste vous lire quelques principes qui sont autres que l'islam. J'ai ici un texte de Pythagore qui dit il y a un principe beau qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et les femmes. Ça, c'est Pythagore qui le dit. Il y a Sacha Guitry qui dit « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. » Et Baudelaire, qui est un des penseurs de l'Occident, dit « La femme est naturelle, donc abominable. » Alors, tout cela veut dire qu'il y avait déjà une pensée négative de la femme dans certaines sociétés qui ne sont pas forcément inspiré par l'islam. Venant à la religion chrétienne,
ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire, c'est que l'islam n'a pas inventé le machisme. Vous êtes en train de nous dire que l'islam n'a pas inventé le machisme. Il existait dans différentes sociétés. C'est entendu.
Je suis revenu sur la considération de l'islam. Je vois dans les écrits chrétiens que le Christ recommande aux femmes d'être soumises à leur mari comme le chrétien est soumis à son Seigneur. Et voilà, donc beaucoup d'autres textes, même sur le voile, qui parlent que la femme ne doit pas laisser ses cheveux apparaître, ça c'est une abomination dans la religion chrétienne. Maintenant, si on vient à l'islam, pour moi l'islam quand même est une religion d'équilibre d'abord. Il faudrait reconnaître que l'islam étant une religion, une civilisation en même temps, est forcément marqué par les terroirs qui le vont venir, qu'il convertit, est marqué par les populations, par les types de sociologie. Certainement, l'anthropologue qui est avec nous pourra nous en dire plus. Mais sur le jugement que l'islam donne à la femme, c'est par rapport à l'homme, c'est un jugement égalitaire. Et je renvoie tous ceux qui nous écoutent à la sourate 33, verset 35. C'est égalitaire devant Dieu, mais différents dans les missions qu'ils ont sur terre. C'est-à-dire l'homme et la femme sont égalités devant Dieu. J'ai cité la sourate 33, verset 35, où le Coran parle de l'homme et de la femme dans leur adoration à Dieu, dans leur comportement, dans tout ce qui les affame, et qui sont égaux devant Dieu. Je ne sais même pas pourquoi, en parlant français et que je parle des hommes et des femmes, j'utilise « il » alors que c'est les hommes et les femmes. C'est tellement le français comme ça. Alors, donc, dans le Coran, les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Maintenant, pour leur mission, il y a certes une différence, et cette différence-là n'est pas seulement une différence, disons, imposée par la religion, mais c'est une différence d'abord physiologique, psychologique, avant d'être sociologique. Et là, le Coran est très précis lorsqu'il met la différence entre l'homme et la femme. Le Coran dit dans la sourate 3, verset 36, les hommes sont différents des femmes. Alors là, tout le monde le sait, l'homme n'est pas égal en termes de physiologie.
Oui, mais ma question, ma question porte sur la place dans la société, la place dans le foyer. Pour ce qui est des différences physiologiques, ça tout le monde le sait, mais ce que je vous demande, parce que nous n'avons qu'une demi-heure, c'est d'aller directement à ce que nous dit le Coran sur la place de la femme dans la société, dans sa société et dans son foyer. Pour ce qui est des différences physiologiques, on les connaît.
Voilà. Dans la deuxième considération, il est important de comprendre que l'islam a réparti les rôles entre les hommes et les femmes. Si l'homme a affaire à la matière, si l'homme doit sortir, si l'homme doit travailler, si l'homme doit chercher à subvenir aux besoins de la famille, donc là, il a affaire à la matière. La femme, quant à elle, a un rôle d'éducation, a un rôle de formation, pas de la matière, mais de l'homme qui doit utiliser cette matière-là. Donc, il y a une séparation des rôles, mais une séparation qui s'exprime plus de la complémentarité que de la concurrence entre hommes et femmes.
Que de la concurrence ou de la hiérarchie, pas d'hiérarchisation pour vous. La femme n'est pas subalterne, inférieure, l'homme ne passe pas avant.
Il n'y a pas de prééminence en termes de valeur. On trouve en islam des femmes qui sont meilleures que 1000, 2000, voire 10 000 hommes. Donc ce n'est pas le problème de l'islam de dire qu'un homme est forcément meilleur à une femme. Et l'islam veut dire que l'homme a son rôle en dehors de la domaine conjugale, à aller s'affronter aux difficultés de la vie, à chercher à ramener des ressources dans la famille, quand la femme, elle, s'occupe de cet être noble, parce que l'homme, dans son éducation, dans sa socialisation,
on a bien...
pour lui permettre d'utiliser les biens et les ressources qui seront amenées.
C'est entendu. Tournons-nous vers nos autres invités. Fatoumata Aliou Touré, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'au Mali, la lecture du Coran est la bonne par rapport à la place des femmes?
Je pense que la lecture du Coran, elle ne change pas en fonction des pays.
Ah, donc vous ne pensez pas comme notre auditeur qui disait que ça change selon les pays.
Unique. Et c'est le même Coran qui est descendu sur tous les hommes. Nous, on est confrontés à des problèmes d'interprétation de ce Coran. Et vous savez, nos activités que nous sommes en train de mener dans le nord du Mali.
Oui, je précise pour ceux qui ne savent pas que vous présidez une ONG.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Je précisais simplement que vous présidez une ONG, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parmi nos auditeurs.
Exactement, je préside une ONG nationale qui travaille essentiellement sur les droits des femmes. Mmh. Et comme nous sommes dans une zone qui est fortement islamisée,
oui.
Pour même avoir l'adhésion des organisations des femmes, il faudrait de temps en temps faire appel à ces imams pour qu'ils viennent donner leur point de vue sur ce que nous sommes en train de faire avec le groupe de femmes. Sinon, on aura peu de chance à avoir ces femmes avec nous.
Et qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est une bonne chose ou qu'au fond, on devrait quand même, on est en 2016 et on devrait pouvoir compter sur l'opinion des femmes elles-mêmes et pas l'accord de l'imam ?
Voilà, comme l'opinion des femmes est influencée par l'accord de l'imam, c'est ça le vrai problème. Les femmes, tout ce qu'elles font, elles veulent bien que ça soit, qu'elles soient conseillées par ces imams-là, qu'elles écoutent beaucoup. Mm-hmm. Nous, dans nos approches, on est obligé parfois de passer par ces imams-là.
Oui, donc,
et
ce qui
on
n'a dire...
rencontré aucun imam qui nous ait dit que l'homme est supérieur à la femme. Jamais. Il y en a qui nous disent même, vous savez, vous n'avez même pas, ce n'est même pas un devoir pour vous de faire la cuisine à ces hommes-là, d'apporter l'eau à ces hommes-là, de laver les habits de ces hommes-là, de nettoyer la maison pour ces hommes-là. Ce n'est même pas devoir, devoir. Même ce que vous gagnez en termes d'argent, de rémunération, qui sort de vos activités, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la cuisine pour ces hommes.
Mais alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est quand même dans la réalité, c'est ce qui se passe.
De vous entretenir, mais le message le plus courant, c'est de dire, nous vous demandons seulement, partout où vous êtes, protégez-vous, comme mon frère du Sénégal l'a dit, habillez-vous décemment, ne provoquez pas des hommes d'autrui, n'allez pas voir des hommes qui ne vous appartiennent pas.
Mmh.
N'allez pas voir, ne regardez pas des hommes, n'allez pas voir des hommes.
C'est entendu.
Pas, ne provoquez pas des hommes. Les
c'est
hommes.
Entendu.
Mais vous n'avez même pas le devoir de faire la cuisine à ces gens-là. C'est qui doivent le faire, pour vous.
Tournons-nous vers Fatousso. Donc, oui, je vous laisse conclure,
oui.
Je vous laisse conclure rapidement et je pose ma question à Fatousso.
Donc, c'est pour dire qu'on a des problèmes d'interprétation dans ces zones-là. Parce on a d'autres, n'est-ce pas, des ignorants, je les dis, je les qualifie comme ça, des ignorants, qui nous traitent de tout. Ils nous traitent de pervers, ils nous traitent de femmes qui sont des femmes qui existent et qui sont en train de détruire la société, parce que c'est les femmes qui forment d'autres femmes pour dire ça, pour raconter ça, ou bien des femmes qui imitent les kebabs ou les blancs. Voilà. Il y a débat
et il y a des tiraillements.
De vous positionner, d'aller chercher le pouvoir, ce n'est pas le droit. La femme n'a pas le devoir d'aller chercher le pouvoir, ce n'est pas son droit. La femme doit rester dans sa cuisine,
C'est entendu. Tournons-nous vers Fatousso. Fatousso, finalement, il y a quand même des tiraillements. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons l'imam Diaye et même Fatoumata Aliou Touré qui nous disent que les textes sont plutôt égalitaires. Le texte, le Coran est égalitaire, mais que dans la réalité des faits, il faut passer par un homme pour qu'une femme ait le droit de mener telle ou telle action. Drôle de paradoxe.
Écoutez, merci de votre question. Mais je voudrais d'abord faire une première remarque.
Hein. Oui, je vous en prie.
Quand vous m'avez présenté, vous avez dit, enfin, tout ça, sociologue qui travaille sur les femmes, et vous avez dit musulmane.
Oui.
C'est vrai, je suis musulmane.
Oui.
Mais j'aurais aimé que vous ajoutiez laïque.
Oh, j'ai dit ardente défendeuresse. J'ai dit ardente défendeuresse de la laïcité.
Oui, d'accord. Ça, j'avais pas entendu. Parce que
d'accord, c'est les problèmes de communication de font que. Mais j'ai insisté là-dessus. Oui.
Effectivement, parce que le débat que nous avons, je connais bien Margot Badran. Margot Badran, c'est une Américaine qui est professeure qui est islamologue et professeure d'histoire de l'islam à Northwestern aux États-Unis.
Absolument.
Qui s'est convertie à l'islam, qui est ce que nous appelons, nous, les féministes islamiques. C'est vrai que dans les textes, il y a cette égalité entre les hommes et les femmes. En fait, les femmes donnent une égalité entre les individus. Mais entre les hommes et les femmes, dans l'islam, il y a une profonde inégalité en matière de droit. C'est ça qui est important de retenir.
Oui.
Alors moi, j'avoue que quand on me demande quelle est la place de l'islam dans les femmes, ou bien quelle est l'impact de l'islam sur le statut des femmes, je suis toujours un peu gênée, parce que je vis dans un pays laïque, où les lois sont faites à l'Assemblée nationale, et les lois, toutes les fois qu'elles incorporent des éléments de religion, qu'il s'agisse d'islam ou qu'il s'agisse de ce qu'on a appelé autrefois un système judéo-chrétien qui était le code Napoléon, enfin, on est très gênés. Parce que quand les Sénégalaises ont, quand Senghor a mis en place un code de la famille à l'Assemblée nationale, il a voulu un texte qui soit applicable à tous les citoyens sénégalais. Et bien sûr, il a dû mettre des provisions qui devaient satisfaire la communauté musulmane. Mais j'avoue que lorsque les femmes ont voulu réécrire le code de la famille, beaucoup de dispositions qui ont été déconstruites et qui ont été changées en termes de plus d'égalité ont été quand même des dispositions qui étaient des dispositions influencées par l'islam.
Alors, oui, pas surprenant au fond. Parce
parler
que...
des rapports, de la part de la femme islam,
oui.
Des rapports entre les femmes et Dieu, très bien. Mais quand on veut parler des rapports en termes de droit, pour moi, le droit au Sénégal est un droit laïque. Et j'aimerais que dans tout le reste de l'Afrique, que ce soit au Nord Mali, que ce soit au Nigeria, ou que ce soit dans d'autres pays, on ait un système de loi dans lequel chacun, en fonction de son système, de valeurs, etc., puisse se battre pour obtenir des droits. Mais aujourd'hui, penser les droits des femmes en termes de religion reste quand même assez difficile et assez dangereux, je pense.
C'est un peu ce que vos trois témoignages nous disent. Allons du côté du standard de VOA Afrique avec Prince Inamou. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Madame. Bonsoir, madame.
où êtes-vous, madame. Prince Inamou?
Bon, je suis à Conakry, je suis à Conakry, je vous appelle de la Guinée.
Très bien, de Guinée. Vous êtes le bienvenu. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette question? Pour vous, quelle est la place de la femme dans l'islam?
Ok. Par rapport, avant que je n'intervienne, je voudrais d'abord signaler un point très important par rapport à la création de l'homme et de la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé la femme pour que la femme soit la compagne de l'homme et non pas l'esclave de l'homme. Mais dans mon pays, particulièrement en Guinée, j'ai constaté une chose. C'est quoi cette chose? On fait croire, les hommes musulmans font croire aux femmes que l'homme est le maître de tout. C'est-à-dire, la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit à s'exprimer, ses devoirs, c'est-à-dire ses réclamations. Par exemple, si nous voyons les jeunes filles ou les femmes, quand ils partent en mariage, c'est-à-dire si elles sont mariées, dès qu'elles viennent, l'homme ne la laisse pas la liberté de s'exprimer. Ça, c'est un. Du côté aussi, par rapport... l'homme fait croire à la femme que, quelle qu'en soit la position ou quelle qu'en soit la décision de la femme, l'homme reste l'homme. C'est-à-dire, par exemple, je suis prends du côté de l'amour.
Oui.
L'homme dit à la femme que Dieu a interdit à la femme d'interdire son mari de se coucher avec lui. Même si elle est indisponible, elle doit avoir le temps de se coucher avec lui. Et c'est une forme d'esclavage. À supposer que même quelle qu'en soit la disponibilité de la femme, si la femme est fatiguée, elle doit obéir à cela.
Elle ne peut pas se refuser à son mari.
C'est une... Alors, oui.
Vous dites que la femme, certains hommes interprètent les textes en disant que la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari.
Exactement. Elle n'a pas le droit de se refuser à son mari. Et même quel qu'en soit le problème. Et ils ont un prétexte disant que si la femme refuse son mari, les anges vont essayer de lui frapper. Donc vous voyez, cette psychologie-là, la manière dont on enseigne à la femme, ça le pousse à être soumise de telle sorte que ça le réduit à leur juste valeur. Ça fait que les femmes, quand elles sont dans leur foyer, elles mènent une vie invivable. Avec ces hommes. Mmh. On les frappe, on les maltraite, on les ligote et elles ne doivent qu'en parler aux voisins. Et lorsque tu les approches, tu sens en eux, tu peux même lire dans le visage que vraiment, elles sont en train de traverser un calvaire.
Ce que vous êtes en train de nous dire, Prince, c'est que finalement, cet islam, l'islam que vous nous décrivez est un islam vraiment très dur vis-à-vis des femmes et qui opprime, exactement, voilà, oppresseur de la femme. Si vous le voulez bien, exactement, tournons-nous vers l'imam, justement, vers l'imam Diaye. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, moi je pense qu'il y a une amalgame qui est en train d'être faite sur une comparaison malheureuse et maladroite entre nos cultures africaines ou certains aspects de notre culture africaine,
oui,
et ce que la religion enseigne. Si un homme ligote sa femme, si un homme maltraite sa femme, est-ce que c'est par l'influence de la religion ou c'est une forme de compréhension de sa culture, de son environnement? Je vous donne l'exemple du Sénégal. Dans nos villages, Fadoussou est en train d'écouter. Quand tu dépasses les terres, ce sont les femmes qui sont en train de cultiver la terre. Vous voyez des femmes porter des bassins sur leur tête et faire des dizaines de kilomètres pour chercher de l'eau à des hommes. Est-ce que cela est inhérent à un enseignement de l'islam ou c'est la culture? L'islam refuse cela. Si c'est pour aller chercher de l'eau, l'homme est plus prompt à aller chercher de l'eau. Il a plus de force, il a plus de moyens, même souvent locomotives pour aller chercher l'eau. Pourquoi il laisse ce travail-là à la femme? Est-ce que c'est l'islam qui lui a recommandé cela? C'est pas cela. Donc ça, c'est des aspects, malheureusement, disons noirs, si je peux l'appeler comme ça, ou en tout cas maladroits de notre culture, qu'on veut tout de suite rattacher à notre religion, qui en est vraiment innocent. L'islam, en tout cas, dans son origine et dans ses enseignements, enseigne le respect de la femme. J'ai bien compris un combat féministe qui veut lutter contre certaines formes de culture. Et aujourd'hui, assimiler cette culture-là à l'islam, c'est poser du tort à cette religion-là qui a tout fait pour redonner à la femme son honneur, pour redonner à la femme sa place dans la société, pour reconsidérer la femme. Je vois tout de suite dans les articles qu'on nous parle du droit de vote de la femme en France en 1944, en Russie en 1918. Dans l'islam, la femme a eu à prendre des décisions politiques hautement symboliques dans les premiers jours de l'islam.
Mais est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Allô? 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 C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on avance. Donc ma question est, est-ce que c'est encore vrai? Vous parlez du pouvoir politique que les femmes ont eu dans l'islam et vous donnez des exemples, mais est-ce qu'aujourd'hui ce pouvoir est le même? Est-ce qu'il est encore vrai?
Il ne faudrait pas prendre des cas isolés. Prenez-moi le cas de l'Arabie Saoudite ou de l'Arabie même en général. Prenez-moi le cas d'une quelconque autre contrée où on dit que c'est l'islam qui est majoritaire et vous voulez prendre les pratiques de ces contrées et les assimiler à ce que l'islam recommande. Si les femmes n'ont pas le droit de vote dans certains pays, c'est vrai.
Je ne parle pas du droit de vote. Je vous pose la question. Imam Diaye, je ne vous parle pas du droit de vote et je ne vous parle pas de l'Arabie Saoudite. C'est vous qui avez donné cet exemple. Ma question est simple. Est-ce que les femmes dans l'islam aujourd'hui ont le même pouvoir que celui que vous évoquez? Ça ne va pas fonctionner si vous n'écoutez pas la question. Le principe de l'interview, c'est que je vous pose la question, vous répondez. Je vous demandais, si, parce que vous parliez du pouvoir de la femme dans l'islam, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce que vous constatez en tant qu'imam, en tant qu'homme de foi, qu'aujourd'hui, les femmes ont ce même pouvoir que vous évoquez?
Alors,
brièvement, s'il vous plaît.
Du pouvoir de la femme, c'est parce qu'on est dans une logique comparative.
Uh-huh.
Je vous ai dit depuis le début que le problème chez nous, et surtout chez nos féministes, c'est le problème psychologique d'abord. Ils sont en train de vouloir toujours comparer l'homme à la femme, alors que l'islam n'est pas dans cette logique comparative. L'islam est dans une logique de complémentarité.
Bon, c'est...
L'homme
oui.
Est le complément.
Ça n'était pas ma question, mais bon, ça ne fait rien.
Là, c'est très simple.
Ça n'était pas l'objet de ma question, mais on va prendre un autre auditeur parce que c'est un peu le principe de cette émission quand même. Et nous sommes avec Adama. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs du Voix Africa.
Alors Adama, la place de la femme dans l'islam.
Oui, si vous vous permettez d'abord de dire un mot sur l'islam pour répondre à notre confrère guinéen qui vient de poser la question. concernant, je voudrais dire d'abord que l'islam fait partie des religions les plus parfaites du monde. D'abord, quand on prend la place de la femme dans l'histoire, quand on prend d'abord l'histoire de la religion même de l'islam, les femmes sont à la base de l'islam, si vous me permettez. Quand on prend l'histoire avant la création, même avant l'arrivée de l'islam dans les religions, à l'Arabie Saoudite, c'est la femme. Il y a une femme riche qui a été même à la base de l'islam pour nous, toute sa fortune et pour l'évolution de l'islam. Donc, la manière dont lui, il est en train de parler, il est en train de réagir en fonction de la nouvelle image qui se dessine.
Mais c'est justement l'actualité de l'islam qui nous intéresse. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est?
Oui, aujourd'hui, je dirais que la place de la femme a beaucoup évolué dans l'islam, mais compte tenu de la situation actuelle, décritée par toutes les grandes organisations internationales sur la vulnérabilité des femmes par rapport dans le passé aujourd'hui, la femme a beaucoup évolué. Ils ont beaucoup plus de respect, ils sont plus motivés, plus engagés, plus bien traités, plus calmes même par
l'islam. Très bien, c'est noté, ce sera votre point de vue. Fatousso, il nous reste très peu de temps. Un mot de la fin?
Le mot de la fin,
oui.
C'est qu'on a toujours ce débat.
Oui.
Alors, le débat de la complémentarité. Vous savez qu'en Tunisie, il y a deux ans, lorsque la constituante a voulu faire une nouvelle constitution, le terme égalité entre les sexes a failli disparaître. Mais les femmes se sont battues, y compris les femmes qui appartenaient à El Narda, se sont battues pour que le terme de complémentarité soit supprimé, ne soit pas mis. Et ne remplace pas le terme d'égalité.
Bon.
Parce que l'égalité est extrêmement importante.
Bon.
Alors, mais un dernier mot.
C'est noté. Je suis désolée, il faut vraiment. On est pris par le temps, on va être coupé. Ce qu'on a compris, c'est que c'est un combat qui continue sans relâche. Et c'est le combat des femmes, mais des hommes aussi. Fatoumata Aliou Touré, vous avez 10 petites secondes pour nous dire un dernier mot.
Oui, avant de dire un dernier mot...
Vous avez 10 secondes, donc vous n'avez que ce dernier mot.
Aujourd'hui n'est pas notre islam.
Oui.
C'est-à-dire, ce qui se pratique aujourd'hui n'est pas notre islam, c'est pas l'islam qu'on est en train de nous enseigner.
Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants, merci à vous tous à la console, à la réalisation, c'était Georges Léonard Sagnot, à la console Alfredo Santos, restez sur VOA Afrique. Merci à nos intervenants.